ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis de la communauté protestante de Blegny, bonjour. Daniel Zavagnon au micro. J'en profite pour saluer aussi tous les internautes qui se joignent à nous pour écouter ce culte. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Malheureusement, nous ne pouvons nous réunir dans notre communauté. Notre local étant trop exigu, nous ne pouvons pas respecter les distanciations prescrites par les autorités. Nous sommes contraints donc de célébrer nos cultes via Internet. Et nous en sommes déjà à notre 17e culte audio, comme le temps passe vite. Je souhaite que chacun de vous soit en bonne santé, et je prie Dieu afin que cette pandémie prenne fin. Ainsi, nous pourrons à nouveau nous revoir pour louer notre Dieu dans notre lieu de culte habituel. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous sommes encore une fois de plus réunis virtuellement, afin d'entendre le message que tu as prévu que nous entendions aujourd'hui. Instruis-nous, Seigneur, dans tes voies. Fais reposer ta bénédiction sur Jean-Luc, que son message soit couvert par ton onction. Nous te prions pour chaque auditeur. Tu les connais. Tu sais de quoi ils ont besoin. Viens les soutenir, les encourager, les renouveler corps, âme et esprit. Seigneur, ta présence nous est nécessaire afin de marcher dans tes voies. Sanctifie-nous et bénis-nous. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je désire faire une lecture. Nous lirons le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Avant d'aller plus loin dans cette introduction, je vous propose d'écouter Grégory Turpin, qui nous chantera un chant magnifique qui s'intitule « Vivre d'amour ».
Sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte de souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Bien-aimé, ma faiblesse est extrême, je suis loin d'être un ange du ciel. Et si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde pour cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie, utilement sachez les employer. T'aimer Jésus, quelle perte féconde, tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens, de son amour je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Vivre d'amour.
En lisant le psaume 133, nous remarquons combien la communion fraternelle est importante. Je ne pense pas me tromper en affirmant que nous nous réjouissons tous de nous revoir enfin au sein de notre communauté. Je crois que ce confinement nous a appris à aimer nos rassemblements dominicaux et autres. Peut-être avons-nous assisté à nos cultes pendant de nombreuses années par habitude, sans réaliser le bonheur d'être réunis ensemble. Il a suffi qu'un virus nommé Covid-19, nous obligeant à nous confiner, pour réaliser le manque dans notre communion fraternelle. Bien sûr, le jour où nous nous reverrons, nous serons sûrement obligés de garder encore nos distances, pas d'accolade, pas d'embrassade, pas de serrage de main, mais le fait de nous revoir réjouira notre cœur. J'en suis persuadé que chacun d'entre nous avons gardé une relation profonde avec notre Dieu, malgré la distance entre frères et sœurs. Mais pour que le chrétien puisse s'épanouir vraiment, il a besoin de communion fraternelle. Car Dieu envoie entre autres sa bénédiction sur son Église, dans le lieu où elle se réunit habituellement. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être bénis aussi chez nous, bien entendu, mais il est bon de nous retrouver dans notre communauté. Et j'insiste avec le psaume 133, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, au sein de notre communauté, réunis d'un même cœur, tous ensemble. Nous voyons comme l'Église primitive était heureuse de se réunir chaque jour ensemble. Nous lisons cela dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien sûr, actuellement ce n'est plus réalisable de se retrouver tous les jours à l'Église comme à l'époque. Nous avons un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement. Mais je veux simplement vous faire remarquer combien cela est important de nous réunir dans nos communautés, afin de grandir dans la foi et recevoir l'enseignement pour notre développement spirituel. Frères et sœurs, un chrétien ne peut vivre isolé, sauf cas de force majeure, bien entendu, par exemple dans les pays où la liberté religieuse est interdite, ou malheureusement être atteint par une maladie, ou d'autres raisons indépendantes de notre volonté. Mais il est bon pour des chrétiens de demeurer ensemble afin de servir le Seigneur, le louer et le prier dans sa communauté. Je terminerai cette introduction en citant l'apôtre Paul, se réjouissant de revoir les chrétiens de Corinthe. Nous trouvons ce texte dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 16, les versets 5 à 7. Paul dit ceci, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous revoir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Nous réalisons combien l'apôtre désirait passer du temps avec l'Église. C'est mon souhait que l'après-confinement renouvelle en nous notre zèle concernant l'assiduité dans nos rencontres. Maintenant, je cède avec plaisir la parole à Jean-Luc, demandant à Dieu sa bénédiction sur notre frère. Soyons attentifs au message qu'il nous délivre ce matin.
Bonjour à tous. Pour le partage de ce matin, je vous propose deux lectures. La première, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 7, je lirai dans la version Second 1910. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les 9 premiers versets. « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Prions. Seigneur, encore une fois, devant ces textes, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu veux nous transmettre. Merci pour ce qui a été écrit, qui a traversé les siècles. Merci pour ces textes de mémoire qui sont arrivés jusqu'à nous. Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier. Merci encore d'être ce que tu es, le bon berger. Amen. Il y a 15 jours, je vous lisais le même passage de Caïn et Abel, et la parabole dite du publicain et du pharisien qui prient ensemble, le thème étant que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Pour notre partage de ce matin, nous suivrons Jésus qui, de nouveau, est en discussion avec les pharisiens, qui ne comprirent pas de quoi il parlait, nous dit le verset 6. Jésus parle et on ne comprend pas. Je ne comprends pas, parce que je n'écoute pas, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'il ne répond pas à mes attentes, parce que je ne veux en faire qu'à ma tête. Voilà quelques raisons qui nous empêchent de comprendre. Remarquez qu'elles sont toutes négatives, sauf la dernière qui glorifie mon ego. C'est moi qui dirige ma vie. Caïn disait la même chose, tout comme le monde qui nous entoure aujourd'hui. Justement, ce monde qui nous entoure est en déconfinement. Enfin, du moins, l'Europe. Enfin, nous voilà libérés, disent les uns. Et d'autres restent traumatisés dans leur maison, ne sortant que pour les courses. Et encore. Je suis toujours scandalisé devant cette publicité qui pose la question « Est-ce que ma vie a changé après avoir gagné à ce jeu européen ?» Ben non. Je laisse toujours les amis de mon chien venir dans mon jardin et l'on voit une multitude de chiens se baignant dans une piscine de luxe. J'aimerais reformuler la question. Est-ce que ma vie a changé après avoir vécu un arrêt total du monde entier dû à une pandémie sans précédent? Ben non, je fais toujours la même chose, sans me soucier des autres. Souvenez-vous de notre texte d'il y a 15 jours. Luc 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Je suis juste et je me moque des autres. Caïn disait la même chose. Je me moque de mon frère, je n'en ai rien à faire. Posons la question. Est-ce que la vie de Caïn a changé après l'épreuve qu'il a subie d'avoir vu son offrande refusée? Oui. Oui, il fut irrité. Et les conséquences seront terribles. Dans ces deux exemples, deux attitudes. Je me crois juste et dénigre les autres, quitte à les tuer en parole. Et j'ai été blessé dans mon amour propre et je tue l'autre pour qu'il ne me fasse plus de l'ombre. En face du virus destructeur, je constate que rien n'a vraiment changé depuis la création, entachée par la chute vers le péché. Dès la levée de certaines mesures de restriction, des femmes et des hommes se sont rués dans les magasins de bricolage, de plantation. Il y a aussi les vêtements, les cafés, les restos. Et combien respectent les mesures de précaution? Puis nous avons vu cette levée de manifestations non autorisées, parfois tolérées, sans aucun scrupule pour les autres. Destruction en tout genre, saccage, pillage, revendication contre le passé, sans état d'âme, quant à la menace virale. Covid-19 était oublié. Vive moi et mes idées, bonnes ou mauvaises, justifiées ou non, peu importe, je dois manifester. Pourtant, il est clair que le coronavirus est toujours actif. Pourtant, il y a toujours des admissions dans les hôpitaux. Et j'en profite pour remercier ceux qui se sont dévoués pour soulager et soigner les malades. Pourtant, le danger est toujours là. Mais peu importe, je dois dire mon avis, je dois m'amuser, je dois vivre. Je dois. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïn? Caïn montrera par son attitude qu'il était égoïste. Dans son entêtement, il deviendra un assassin. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Un peu d'amertume non pardonnée peut mener au pire. Notre monde égoïste est devenu meurtrier par intérêt, par profit, par propre gloire. Par le péché, tout simplement. Oh, je sais que cela dérange de parler de ce mot que certains voudraient voir retiré du dictionnaire. Il traumatise, je dirais. Pire, il tue, tout comme le Covid-19. Et le monde ne s'en inquiète pas. Le péché est comme le coronavirus. Il est silencieux, sournois. Il se propage à la vitesse grand V. Il est partout. Il est destructeur. Dieu dira à Caïn que le péché couche à ta porte. Il est dehors, mais toi, domine sur lui. Même s'il a une grande influence et qu'il est plus facile d'y succomber que de lui résister, il est toujours plus aisé de casser, démolir, critiquer que de construire. Mais il y a quand même beaucoup plus de joie à bâtir, à élever, à enseigner, à construire. C'est aussi une parole de Dieu pour Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Autrement dit, tu pourras marcher la tête haute. Tu n'auras pas à craindre. Tu n'auras pas besoin de te cacher la figure. Tu n'auras pas besoin de grimper sur les murs pour entrer comme un voleur ou un brigand. Tu pourras vivre en paix parce que le bon berger veille sur toi. C'est clair que des ennemis, tu en auras. Le lion, le loup, le serpent, le diable, ton égo refera surface. Ta condition d'humain te tiraillera. Mais la houlette et le bâton du berger te rassurera. Ces mots sont peut-être pour toi connus. Mais connaissons-nous toutes les facettes de cette image du berger et de la bergerie? Il y a quelques jours, j'entendais à la radio que des moutons étaient utilisés pour couper l'herbe le long des voies de chemin de fer du TGV. Il y avait avec eux un berger pour les guider et les avertir du danger du train grande vitesse qui déboule sans crier gare. Avec Jésus, le bon berger, le danger ne disparaît pas comme par magie, mais il nous en avertit et nous protège. Nous ne sommes pas retirés du monde que nous côtoyons, mais nous sommes conduits vers les pâturages nourrissants, oh, parfois au bord de ce qui peut nous détruire, mais en Jésus, nous n'avons rien à craindre. Et j'ai lu dans la même semaine une expérience qui avait été faite avec plusieurs bergers et plusieurs troupeaux différents. Les brebis ont été mélangées, et puis les divers bergers ont pris des routes différentes, tout en parlant. Les troupeaux se sont retrouvés derrière leurs conducteurs respectifs, prouvant ainsi que les moutons connaissaient la voie de leur maître. Illustration parfaite du verset 4 de l'évangile de Jean. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. Dans ce monde déboussolé, connaissons-nous vraiment la voie de notre berger? Quand plusieurs nous diront de ne pas croire à ces sornettes, de ne pas agir comme des véritables moutons de Panurge. Petite parenthèse, l'expression « mouton de Panurge » tire son origine d'un épisode du quart livre de François Rabelais, sans s'y trouver exactement ces termes. L'histoire met en scène, sur un bateau, un vendeur de moutons précieux qui se moque de l'accoutrement de Panurge, qui décide finalement d'acheter une bête et d'aussitôt la jeter dans la mer. Les autres moutons, voulant suivre un des leurs, sans réfléchir, se noient de la même manière. Tout le troupeau fut perdu. L'actualité nous a montré que les mouvements de foule destructeurs étaient déclenchés par un élément minoritaire et amplifiés sans réflexion. L'image de la brebis dans la Bible ne veut pas dire que tous les chrétiens sont des bêtes sans cervelle, que tout ce qui réclame de la Bible sont des suiveurs irréfléchis. Que du contraire, la liberté du pâturage se fait sous la garde du divin berger qui nous aime. Et dans le texte que nous avons lu, il y a un élément qui ressort, un personnage qui ne revient que peu dans la Bible. 4 fois dans le Nouveau Testament, le portier ou la portière, et 40 de fois dans l'Ancien Testament, le portier, le gardien de la porte. Ce portier est une sorte de veilleur, de sentinelle, de surveillant des entrées et sorties. Dans notre parabole, une des interprétations est que ce portier est Dieu lui-même, représenté par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui décide qui entre. le premier à pénétrer dans la bergerie, et Jésus lui-même, bien sûr, suivi de ses brebis, dont il connaît le nom individuellement. Jésus continue un cran plus loin. Il est lui-même la porte, désignant ainsi la route à suivre. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, celui que le Fils a ouvert à la croix et au tombeau vide. Si je suis arrivé à parler du portier, c'est parce que, pour garder convenablement, celui-ci se couche à travers la porte. Les bergeries en Orient sont faites de murs en pierre, mises les unes sur les autres, et la porte est un passage ouvert. Ils font donc un gardien pour empêcher les brebis de sortir et bien sûr le loup d'entrer. Le Saint-Esprit est notre gardien, notre secours, notre consolateur. Il se met en travers de la porte pour notre protection. Mais revenons à notre récit de Caïn. Qui couche à sa porte? Je ne pense pas que le péché puisse nous protéger de celui qui en est l'instigateur, le lion rugissant, cherchant qui il veut dévorer. Dans notre état de déconfinement, l'inconscience et l'insouciance vis-à-vis du virus est tout autant présente que face au péché qui nous guette. Le monde nous montre un sentiment de disparition de la maladie. Le coronavirus n'est pas pour nous, se disent certains. On est au-dessus de tout cela, disent d'autres. Que celui qui est en bonne santé ne prenne garde de contracter la maladie. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. De même, les femmes et les hommes ne prennent plus attention au Covid-19 parce qu'on s'y habitue. On s'habitue à le côtoyer. De même, ils ne se soucient pas moins de leur âme qui frôle à chaque instant la destruction éternelle parce que Dieu n'existe pas. Parce que la religion est l'opium du peuple. Mais le péché, tout comme le coronavirus, est toujours là. Quand on se promène dans la rue ou dans les magasins, rien n'a vraiment changé, et davantage que les vacances approchent. Je suis électricien de formation et le plus grand danger pour nous, c'est de s'habituer justement aux conséquences de l'électricité. Plusieurs professionnels de la haute tension se sont fait tuer par ce serviteur invisible qui peut être destructeur et très dangereux si on oublie qui il est et qu'il est là, même si on ne le voit pas. Le coronavirus est toujours présent, tout comme les péchés. Aujourd'hui, l'actualité nous montre que des délinquants, des fraudeurs, des criminels peuvent être mis à l'honneur, entraînant le refus du respect de la justice. Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est mal et qui déshonore le Créateur. Le monde n'a plus de référence, n'a plus de balises, n'a plus de limites. Mais aujourd'hui, nous, Église, nous, chrétiens, avons encore un message d'espérance. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui veut dire révélation et non pas catastrophe, le même Jésus nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, aujourd'hui, quelles sont les questions qui doivent nous interpeller? Est-ce que ma vie a changé suite à cette pandémie? Est-ce que je me suis laissé interpeller par la voix de Jésus? Qui couche à ma porte? Le péché ou le Saint-Esprit? Que Jésus soit notre bon berger, parce qu'en lui seul, nous avons la vie. Il est mort pour que nous vivions. Amen. Avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous mardi de 19 à 19h30 pour notre moment de prière à la maison. Soyez prudents et que la grâce de notre Seigneur vous accompagne. Je vous laisse maintenant avec un morceau du groupe EXO. Dégustez et méditez. À bientôt. Thank you.
genoux devant toi, ton église attend.
Yeah.